Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast francophone consacré aux Phoenix Suns. Deuxième partie aujourd'hui de notre bilan aux deux tiers de la saison, bilan individuel aux deux tiers de la saison des Phoenix Suns. Comme on le disait hier, on profite vraiment de ce All-Star Break, de cette respiration dans la saison pour se projeter un peu plus précisément et un peu plus en détail dans ce qu'ont produit les joueurs du roster de Phoenix cette saison, joueur par joueur, en attribuant une note donc sur 13, la fameuse échelle de Nash, de plus en plus fameuse, on l'espère. Et pour m'accompagner dans cette tâche, comme hier, c'est juste Hicham, donc voilà, le fameux duo à l'ancienne de Valley Hoop. Comment ça va, Hicham?
Eh ben, ça va très bien, c'est juste nous. Donc, on est bien, on connaît un petit peu la chanson. Voilà, on l'a pas mal dansé dessus. Donc, non, ça va très bien. Et puis aujourd'hui, on va peut-être un tout petit peu plus se marrer par rapport aux joueurs qu'on va voir. Parce que hier, bon, le front court, voilà, il n'y a pas énormément de All-Star ou de calibre pas MVP, mais de calibre All-Star au niveau du front court, hein, à part KD. Mais là, on a quelques beaux petits bébés, donc ça va être sympa.
Carrément, effectivement, il y a un sacré menu qui nous attend aujourd'hui. On va donc pas perdre plus de temps que ça et se lancer directement dans cette deuxième partie du bilan des Suns au All-Star Break, pardon. C'est parti pour Valley Hoop. Back with the Remus, these boys are my sons like Phoenix, my city. See the shots that I took, wet like I'm booked. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom! That is just, oh. Sun came out, I went about to drop top. On est donc dans cette deuxième partie du bilan intersaison, voilà, on va dire, dans la saison, intra-saison, aux deux tiers de la saison. Tu l'avais bien signalé hier, Hicham, avec donc ces 55 matchs, on est à peu près aux deux tiers de la saison et on a une bonne idée, hein, vraiment, en termes d'échantillons, sauf pour Bol Bol, on l'a évoqué hier, c'est un cas un peu particulier, et pour les nouveaux arrivants évidemment. Mais pour les joueurs du backcourt dont on va parler aujourd'hui, on a vraiment un échantillon qui est probant et qui est intéressant. Je te propose, Hicham, de vraiment commencer par, j'allais dire par le meilleur, oui, évidemment par le meilleur de ce backcourt, le meilleur joueur des Suns, c'est en discussion toujours, mais en tout cas le franchise player des Suns, Devin Booker. Quelle note toi tu lui mets sur ces deux premiers tiers de saison et pourquoi?
Ouh, ah, ça commence sur les chapeaux de roue, quoi. Quelle note je mets sur l'échelle de Nash à David Booker? Ouh. Bon, bah, je sais pas, on sait qu'il y a tellement de trucs qu'il fait génialement bien qu'on je vais essayer de focus sur les points d'achoppement, peut-être les points de détail ou les domaines du jeu dans lesquels il n'aurait pas complètement répondu à mes attentes. Et quel serait-il? Alors, bon, je vais commencer par la note. Je vais lui mettre comme KD hier 12. Et je vais expliquer pourquoi je lui donne pas 13. Et c'est vraiment, voilà, c'est un bon 12 que je donne. Hein. C'est vraiment que je chipote un peu, peut-être, voilà, pour pas lui donner la note max parce que il est pas loin de la mériter. Mais il y a deux petits aspects sur lesquels, un en particulier sur lequel j'étais un tout petit peu déçu. Et c'est parfois son implication et son focus dans le domaine défensif. Alors ça va mieux depuis en fait que Bradley Beal a recommencé à jouer. J'ai remarqué ça. Mais avant ça, c'est-à-dire il y a encore une vingtaine de matchs, il y a eu pas mal de matchs où j'étais un petit peu énervé, surtout en début de saison. Voilà, vraiment sur les 25-30 premiers matchs. Une fois qu'il est revenu de sa petite blessure. Il y a des choses qui m'ont un petit peu énervé de ce côté-là, côté défense. Je le voyais sur le terrain qui parfois prêtait pas attention à son adversaire direct. Alors, parfois pour des bonnes raisons, c'est-à-dire qu'il essaye de positionner ses coéquipiers là où ils doivent être. Alors, d'après son coach et d'après pas mal de joueurs qui sont dans l'entourage de Booker. C'est un joueur qui est méticuleux, qui fait attention aux détails, qui parle beaucoup à ses coéquipiers et qui essaie vraiment de partager sa science du jeu. On sait qu'il a un très jeune âge, mais qu'il est déjà très expérimenté et qu'il a appris à bonne école. Donc ça, je veux bien entendre cet argument que voilà, il joue un peu un rôle de leader à ce niveau-là, au niveau de l'explication des choses des deux côtés du terrain et s'assurer que ses coéquipiers comprennent bien. Mais par contre, en termes d'exemplarité, bah, il y a eu pas mal de matchs, surtout en début de saison, comme je disais, où voilà, il avait tendance à la jouer un peu trop too cool for school et à laisser ses adversaires partir dans son dos un peu trop facilement, ou voilà, scorer des points au cercle ou à 3 points sans qu'il y ait vraiment de gros contests de sa part. Donc ça, c'était le petit hic que je voulais soulever. Alors il y avait au début de saison un petit peu les turnovers aussi, les ballons perdus, mais lui, comme KD, s'est nettement amélioré au fil de la saison, et lui très nettement d'ailleurs. C'est-à-dire que vraiment sur les 27 premiers matchs, dont il a joué à peu près 16-17 matchs, c'était un peu tendu à ce niveau-là. Il perdait vraiment beaucoup trop de ballons, genre quasiment 4 par match. Et puis sur les 25-30 matchs suivants, bah là c'est beaucoup beaucoup mieux. Il est dans les standards, dans ses standards de l'an dernier et des playoffs derniers, c'est-à-dire vraiment excellent, où on est au-dessus du 2 assists pour un turnover. Donc c'est très bien pour un guard qui a beaucoup le ballon en main. Donc je peux pas lui en vouloir d'avoir nettement progressé là-dessus, mais pareil, en début de saison, c'était un petit peu compliqué. Donc juste parce que sur le début de saison, il y a eu ces deux petits points d'achoppement, je donne pas la note max, mais franchement, je suis presque tenté de le faire tellement il est bon et tellement il apporte énorme à cette équipe night in, night out. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, quoi? C'est Booker, on le connaît, je vais pas parler de tous ses points forts. Nos auditeurs connaissent mieux
La
que moi
litanie.
tous ses points forts, ouais. C'est notre
Oui,
bébé.
c'est ça. Bah, ça fait des années, effectivement, que c'est notre star. Donc, effectivement, là, ne serait-ce que dans Valley Hoop, hein, on a vraiment vécu son essor en tant que grand joueur enfin, joueur important de la NBA. Donc, effectivement, comme tu le dis, on a déjà un peu tout dit sur Devin Booker. Mais il y a quand même des choses à dire là sur sa saison. C'est quand même très, très intéressant quand même ce qui se passe. Moi, j'ai mis une note un tout petit peu inférieure à la tienne. En fait, comme pour KD, j'ai mis 11 sur 13. Un peu pour la même raison que toi d'ailleurs, puisque en fait, bah, il y a ce côté un peu régression, on peut le dire en défense. Il était arrivé vraiment à un bon niveau moyen, on va dire, dans son implication défensive et dans sa gestion des match-ups, que ce soit voilà sur l'homme, on va dire, ou sans le ballon, enfin sur les mouvements plus voilà hors de l'action, quoi, sur le côté faible, ce genre de choses. Ça a été vraiment moins bien cette saison. Comme tu dis, il y a quand même eu une amélioration là sur les dernières semaines, et ça a coïncidé aussi avec des Suns au complet, avec des Suns beaucoup plus impliqués du côté défensif. Donc effectivement, on peut se rassurer peut-être sur ce côté-là et se dire que c'était aussi une gestion de ses efforts là en début de saison. Mais en fait, donc oui, paradoxalement, tout ça pour dire, j'ai mis moins que toi, mais je vais peut-être être encore plus élogieux dans ce que je vais dire sur Booker, parce que bah en fait, un peu en scred, mais il fait presque sa meilleure saison, en fait, presque la meilleure saison de sa carrière là cette saison. En tout cas, bah si on regarde par exemple la fameuse stat, voilà, c'est devenu ça va devenir une habitude vu que maintenant on a le petit abonnement Cleaning the Glass qui va bien, mais donc c'est sa meilleure saison en termes de points par possession, pardon. Donc tout simplement le baromètre de la réussite individuelle en NBA. Donc il est à enfin la réussite au tir, pardon, en NBA, il est à 1,25 points par possession. Il n'avait jamais atteint ce total avant, même dans ses années précédentes, voilà, ses années All-Star et tout. Donc il y a vraiment une bah côté un peu maturité en termes de scoreur. Il est plus efficace que jamais, alors que c'est un joueur qui a déjà été très efficace dans sa carrière. Il y a ce côté aussi enfin un peu nouveau dans son jeu, même si pareil, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu là pour le coup il y a plus longtemps du côté des Suns, c'est-à-dire à l'époque où il n'y avait pas de meneur et où il était obligé d'assumer tout le playmaking. Là cette saison, il est le playmaker principal, le porteur de balle principal, le créateur principal des Suns, et ça se voit sur les stats avec donc un bond en termes d'assist percentage par rapport à la saison dernière. Il était à 25% l'année dernière, il est à 30,2% cette saison. Ça le positionne donc parmi les combos dans le 95e centile de la NBA, donc il est vraiment parmi les bons meneurs créateurs de NBA qui ont une grosse production à ce niveau-là. On est sur le deuxième meilleur assist percentage de sa carrière, hein, à titre d'information. Donc après cette fameuse saison 2018-2019, celle après l'arrivée, donc après la draft d'Ayton et Bridges, où pour le coup il avait été décidé de tester le point book sous l'égide de Kokoskov. Revenons à cette saison après cette petite digression temporelle. Mais bref, pour dire que Devin Booker là sur la saison, il est sur tout simplement sur ses meilleurs standards. Donc au niveau, on l'a dit, du shoot, il est encore un peu au-dessus. Au niveau de la passe, il est sur ses meilleurs standards. Au niveau des pertes de balles, tu l'as dit, c'était inquiétant en début de saison. Ça s'est vraiment inversé au point qu'il est sur le meilleur turnover pourcentage de sa carrière. Le deuxième, en l'occurrence 9,8%, mais le deuxième après la saison 2021-2022, où il était à 9,3%. Et si on se souvient bien donc, de cette saison-là, la saison à 64 victoires de Phoenix, il était presque plus en bout de chaîne que beaucoup d'autres joueurs dans l'effectif. Et comment dire, si on prend son assist percentage cette année-là, il est à 21,2%, hein, ça dit beaucoup de choses. Il y avait cette fameuse stat que c'était le joueur qui marquait le plus de points par ballon touché en NBA à cette époque-là. Donc voilà, il n'avait pas du tout le même rôle sur le terrain. Et pourtant, on est dans le même ordre d'idée en termes de turnover percentage. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et tout ça donne un ratio général assist turnover qui est plutôt bon, hein, 2,74. C'est son meilleur, sa meilleure marque, on va dire, dans ce domaine du ratio, donc assist par turnover, quoi, nombre de passes, nombre de pertes de balles. Et il se situe, en fait, si on regarde un peu les stats des gros créateurs de la NBA, il se situe, en fait, dans les bons créateurs, dans le top 20 des meilleurs meneurs de NBA sur la gestion du ballon. Il est entre chez Gilgeous Alexander et Jalen Brunson, hein, qui commencent à devenir plutôt des références dans ce domaine-là. Il est devant des joueurs comme Trae Young, comme Luka Doncic ou comme LeBron James sur le assist par turnover. Alors, c'est des joueurs qui ont encore plus de responsabilités, on va dire, dans la création du jeu, mais ça veut aussi dire qu'il est plus propre que ces mecs-là. Donc c'est vraiment... Voilà, bon, à plein de niveaux en fait, pareil au niveau de la réussite au tir, au cercle, il est à 76% de réussite cette saison, hein. Devin Booker, il n'avait jamais dépassé les 70% en carrière, donc il y a vraiment beaucoup d'éléments dans sa production globale, si on prend les stats, qui sont genre au sommet de ce qu'il a pu produire. Donc en fait, on a presque la meilleure version de Devin Booker, alors qu'on lui demande d'en faire plus que les saisons précédentes, avec ce rôle de créateur principal. Il y a vraiment, pour moi, c'est vraiment une réussite, malgré donc le fait, et ça reste quelque chose pour Booker, il y a une irrégularité quand même dans les performances, on va dire, en termes de scoring en tout cas, avec des soirs sans, hein, il y en a encore eu cette saison. Il y a cette comme on le disait, ce petit là où le bas blesse un petit peu, c'est cette régression un peu en défense, mais globalement sa production, elle est de très 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 haut niveau. C'est peut-être la saison où il mérite le plus, on va dire, son statut de All-Star, là, sa quatrième sélection All-Star, c'est peut-être celle qu'il a le plus mérité parce qu'il a produit sur le terrain. C'est vraiment, il s'est installé en fait comme une référence absolue là de la NBA. En fait, nous on le voit tous les ans, mais là, ce qu'il produit cette saison, c'est encore d'un niveau supérieur. On sent que les caps, il les assimile assez facilement, quoi. Donc voilà, donc je vais te redonner la parole si t'as quelque chose à ajouter sur Booker, mais moi, malgré ce 11, je suis quand même extrêmement satisfait, donc 11 un peu moins que toi, je suis quand même extrêmement satisfait de ce qu'il produit, et effectivement, je le mets au même niveau que Durant dans l'apport. Les deux sont les fers de lance de l'équipe, et des fers de lance vraiment brillants, qui tirent l'équipe vers le haut, hein, tout simplement, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est juste pour pas paraître trop sévère, parce que c'est vrai qu'il a dû endosser des nouvelles responsabilités, point book, alors qu'à la base, c'est un finisseur né, c'est un mec qui score, et qui est excellentissime dans ce registre. Là, on lui a demandé d'être vraiment le primary playmaker de l'équipe. Et voilà, il a endossé ce rôle sans rechigner, il l'a fait et bien fait, il a son meilleur total d'assists en carrière. Et du coup, je voudrais pas paraître trop sévère, même si je donne une meilleure note que toi au final. Je voudrais pas paraître trop sévère par rapport au fait que il donne beaucoup pour l'équipe et c'est pas un mec qui regarde ses stats, qui regarde voilà ce qu'on dit de lui et qui pense à sa pomme. C'est vraiment un mec qui est tourné vers l'équipe et c'est un super leader et un super franchise player et on peut que s'en réjouir. Donc voilà. Pas pour dire que j'ai chipoté, mais oui, c'était plus le sanctionner entre guillemets pour quelques lacunes, plutôt du vraiment, comme on disait, du début de saison. Mais là, depuis quelques temps, il est en train de vraiment montrer l'étendue de son talent, que ce soit en termes de volume de jeu, mais aussi d'efficacité. Il est aujourd'hui à 50%, enfin, au shoot, presque 40, enfin, pas trop loin des 40 à 3 points. Sachant qu'il prend quand même pas mal de pull-up, hein. C'est pas les 3 points faciles, catch and shoot dans le corner ou à 45 degrés, il a tendance à prendre des 3 points qui sont pas évidents à mettre. Du coup, voilà quoi, il est All-Star, il fait quand même une énorme saison, et All-Star Reserve, c'est pas immérité non plus, sachant que, bon, Shai Gilgeous-Alexander, de son côté, fait une énorme saison, la meilleure de sa carrière de très loin, et déjà que l'année dernière, il avait été très très bon. Et là, cette année, il est encore meilleur et son équipe est parmi les numéros 1 de la ligue. Donc, ce n'est pas anormal de voir le backcourt Doncic Shai Gilgeous. Mais alors, Devin Booker, c'est un very close third, en gros. Et probablement le meilleur reserve guard à l'ouest et même au niveau des deux conférences. Donc, voilà. Un gros et beau 12 pour moi, en tout cas pour lui. Et voilà.
Ouais. Je vois, je vois. Tu viens de te mettre à dos les fans des Warriors qui de toute façon n'écoutent pas ce podcast. Enfin, si peut-être les copains du
Oh,
podcast Retro Warriors qu'on salue au passage. Après,
ouais.
Steph Curry fait quand même une
Ah,
bonne
parce
saison.
que c'est un joueur
Mais je pense
qui.
aussi, enfin pour le coup, je pense que Booker fait une meilleure saison que Curry. C'est à
Ah,
débattre, en fait.
c'est vrai.
Mais effectivement, voilà, c'est intéressant. Très bien. Et bien, on va passer
D'ailleurs, il
à
est
Steph
All-Star, hein,
Curry.
Curry, hein. Il est
Oui, tout
All-Star,
à fait. Mais c'était la seule question, en fait. C'était juste, est-ce que dans ces deux réserves All-Star, Booker est au-dessus de Curry ou
Ah, pour
voilà,
moi,
qui est le clear third? Effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, mais bon, bref, c'est un vaste débat. On va donc passer à la suite voilà, un sujet qui fâche. Peut-être enfin, on va avoir de la disparité, de la grosse disparité dans nos notes. Hein. Pour l'instant, on était très proche à un point près. Peut-être que sur ce cas-là, ça va être un peu différent. Je vais te laisser, tiens, me dire ce que t'en penses pour commencer. Eric Gordon, qu'est-ce que tu voilà, comment tu le notes et qu'est-ce que
Rico.
tu as à dire?
Rico. Alors, Rico. Ah, qu'est-ce qu'on va dire sur lui? Qu'est-ce qu'on va dire sur lui? J'aime bien les Eric, moi, à Phoenix, hein, entre Eric Bledsoe, Eric Gordon, c'est bien. Tu t'appelles Eric, t'es au Suns, t'es forcément clivant. Pop, 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 que dire? Bon. Je vais commencer par. Je vais donner la note un petit peu après avoir donné une toute petite explication sur ma vision de Eric Gordon. Pour moi, Eric Gordon, c'est pas une mauvaise recrue, loin de là. Je suis content qu'on l'ait pris, surtout au prix bah, qu'on le paye. Je veux dire le minimum vétéran pour un joueur de cette expérience-là, un peu plus de 3 millions par an, c'est très bien. Voilà, on paye pas cher, quelqu'un qui a de l'expérience. Quelqu'un qui apporte à l'équipe, dont beaucoup de gens disent qu'il a un vrai leadership sur le vestiaire, qui parle beaucoup aux joueurs sur le terrain, en dehors, qui apporte son expérience, qui est un vrai bon shooter à 3 points, vraiment capable de shooter de loin, et vraiment capable de planter des pions, donc essentiellement à 3 points ou au cercle, en pénétration. Donc, pour ça, je dis merci James Jones et merci Eric Gordon d'être venu à Phoenix et je continue à en espérer de grandes choses. Maintenant, que dire sur... Alors là, je vais commencer par la note. Donc la note, je lui mets tout juste la moyenne et j'explique pourquoi. Donc 7. 7 sur 13, c'est-à-dire légèrement au-dessus de la moyenne qui sera 6,5 et pas plus. Et c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu avoir bien plus. Il aurait pu viser un 9, 10, 11. Mais je lui mets que 7 parce que moi, j'étais un petit peu écœuré il y a encore pas si longtemps. Mais depuis quelques matchs, Dieu merci, ça va mieux. Mais j'étais écœuré par sa défense. Écœuré. Écœuré, écœuré. Il y a des moments, j'en pouvais plus. Et j'estime que cette saison, il y a bien une poignée de matchs, au moins une poignée de matchs, qu'on a perdu dans le clutch, dans le méga money time à cause de lui. À cause de sa façon de justement pas défendre ou très mal défendre. Voilà, avoir des brain farts, comme disent les Américains, quoi, des pets de cerveau, en défense surtout et en attaque parfois aussi. Exemple, le moment où Eric Gordon il va choper la balle en catch and shoot et il a quand même un peu la place d'envoyer son shoot, mais il hésite pendant une seconde et comme il n'est pas très très grand, bah il envoie son shoot un chouïa en retard. Le défenseur attend de revenir et Eric Gordon te fait un marché. Il saute avec le ballon, il atterrit avec. Il a fait plusieurs fois le coup. Et voilà, ça c'est le genre de truc qui me rend un peu nerveux, surtout dans les fins de match. Donc, pour insister d'abord sur les points négatifs par rapport à lui, bah voilà, c'est ça, c'est ça. Sa défense tout au long de la saison, même si un léger mieux dernièrement, et j'espère que ça va continuer à aller en s'améliorant. Voilà, et sinon, bah, il est dans ses standards, on va dire. Alors, j'ai pas regardé ses stats avancées, mais j'imagine qu'en points par minute. En passes par minute, etc. Et en pourcentage, j'imagine qu'il ne doit pas être très loin. Il doit pas être très très loin de ses standards de la saison passée, de ses dernières saisons, voilà, où il sort du banc aux Clippers et avant ça à Houston. Donc oui, voilà, pour les points négatifs, surtout la défense. Les points positifs, encore une fois, le leadership, la capacité à planter des 3 points. Cette saison, il a des pourcentages qui restent honorables à 3 points. Bah, faut savoir que Eric Gordon, c'est surtout un bon joueur quand il joue avec les autres titulaires, quand il est titularisé, je veux dire, pour être plus clair. Il a des très bonnes stats en tant que titulaire cette saison. Par contre, dès qu'il sort du banc, c'est un petit peu moins folichon. J'ai vu cette stat là il y a quelques jours. Des pourcentages qui baissent drastiquement et des points par match aussi. Bref, toutes les stats qui sont en berne quand il sort du banc par rapport à lorsqu'il est titulaire, et on le voit encore lors des derniers matchs. Donc, on sait qu'Eric Gordon, il va pas être titulaire en vue des playoffs, et on l'espère même pas en vue de la fin de saison régulière, parce qu'on espère un retour rapide quand même de Brad Beal. Donc, il doit vraiment bien embrasser ce rôle off the bench et produire. Et on attend beaucoup de lui parce que c'est lui le premier remplaçant sur les postes en gros 1 et 2, les postes d'arrière. Et on n'a pas encore recruté d'arrière sur le marché des buyouts. On est un peu léger au niveau de la rotation bas-court. Donc il faut vraiment que Eric Gordon produise et produise lourd. Et voilà, bah, on attend beaucoup de lui. Et du coup, j'en attends plus. Voilà, j'en attends plus. Et comme note, je lui mets. 7 sur l'échelle de Nash, donc 7 sur 13. Une saison correcte, mais j'en attendais un petit peu plus de sa part.
Je vois, je vois, je vois. C'est intéressant. Bah, je suis presque déçu. J'allais dire, c'est pas le bon terme, mais je pensais que du coup tu le mettrais effectivement en dessous de la moyenne. Hein. C'est pour ça que je pensais qu'il y aurait une grosse disparité dans nos notes.
Ah,
Parce que
ouais.
pour moi, tu le mettais à 6 vu les rents réguliers que tu as contre cette
Ah
défense.
ouais,
Mais
sur sa
effectivement.
défense. Pour sa défense surtout.
C'est ça, mais tu as su être comment dire, apporter de la nuance dans ta notation et dans ton jugement. Donc effectivement, enfin, c'est pas juste tes émotions qui ont parlé là dans ton analyse. Donc c'est une bonne chose et ça permet effectivement de mieux saisir un peu le, bah, un peu ouais, c'est enfin énigme, ce serait un mot un peu fort, mais il y a un côté un peu particulier. J'ai pas regardé ces stats-là, c'est assez intéressant. Je vais essayer de creuser ça peut-être pour une prochaine fois, mais sur le côté remplaçant titulaire, ça pourrait
Ah ouais,
s'expliquer.
la diff, elle est énorme, elle est ouf.
C'est appliqué aussi tout simplement par le fait qu'il est quand même du coup amené beaucoup plus à jouer avec Nurkic quand il est titulaire et du coup on sait à quel point Nurkic c'est important dans le jeu des Suns cette saison, donc peut-être que c'est aussi ça qui, enfin tu vois, l'un amène l'autre quoi, dans certaines mesures, hein, et d'une manière générale, bah plus avec les titulaires, donc avec Booker et Durant aussi, enfin tu vois, il y a un côté comme ça parce qu'effectivement il a quand même, bah, il a beaucoup joué, hein, depuis le début de saison, 1394 minutes au total. Je crois que c'est ça, c'est le cinquième total du roster, donc sachant que Bill a été blessé. Mais c'est vraiment le sixième homme attitré des Suns, qui est vraiment là pour boucher les trous dans le 5 de départ quand il y a des absents aussi. Mais il a un rôle un peu particulier par rapport aux créateurs principaux qui peuvent être Booker et Bill. On a parlé un peu de Booker, on parlera de Bill après. Il a aussi un rôle différent par rapport à Grayson Allen, où il est moins impliqué, on va dire, dans les systèmes, dans la circulation de balles. En fait, j'ai l'impression, après, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas vérifié, c'est peut-être un
Il
hype.
l'était beaucoup en début de saison, et trop d'ailleurs. On
Oui, c'est
voyait
ça, mais c'est-à-dire
son
qu'effectivement, en
rôle.
début de saison, en l'absence de Bill, il a été, et de Booker à un moment d'ailleurs, il a été presque intronisé porteur de balle principal. Et en fait, ça a switché à un moment où il est devenu un peu la fin de chaîne exclusive, quoi. Je crois que ses stats en termes d'assists sont famélique cette saison. Ça veut pas tout dire, bien sûr, mais ça veut dire qu'il est quand même rarement dans la création pour les autres, d'une manière générale. Donc il y a ce côté-là qui est assez marquant, je trouve, avec Eric Gordon. Donc c'est essentiellement un finisseur et c'est essentiellement un bucket getter dans l'effectif des Suns là cette saison. Et pour le coup, moi je trouve et c'est validé un peu par les stats qu'il a plutôt un rendement correct, un rendement même assez bon, on peut le dire, un 21 points par possession là cette saison. Donc si on compare, on a dit tout à l'heure pour Booker c'était un 25, donc il est pas si loin que ça de l'efficacité, on va dire, de Devin Booker. Il est dans le 81e pardon centile chez les Wars, donc il est plutôt dans le haut du panier des Wars de NBA en termes d'efficacité. Et en fait, il a rarement été aussi efficace au tir, hein, Eric Gordon, dans sa carrière. En tout cas, il n'a jamais été aussi efficace dans ses grandes années, on va dire, de sixième homme avec Houston, quand Houston jouait quelque chose et qu'il était leur sixième homme, ou il était sixième de l'année, je crois, en 2017. À ces époques-là, il n'était pas du tout dans ces ranges-là de réussite au tir. Donc, ce côté-là est assez intéressant. C'est notamment lié effectivement au fait que c'est un énorme volume de tirs à 3 points là, pour les Suns cette saison. Il est à 39%, donc c'est vraiment bien, hein. Et il est à 2 points à 58,5%, donc ça reste honnête aussi, avec un volume beaucoup plus réduit. D'ailleurs, petite stat qui est très parlante sur le fait que maintenant c'est vraiment un shooter à 3 presque exclusif. C'est la première fois de sa carrière cette saison que Eric Gordon shoote moins de 4 tirs à 2 points par match en moyenne. Donc c'est voilà, ça veut aussi dire que vraiment il s'est concentré sur ce rôle d'artilleur de loin, et de temps en temps bien sûr à aller casser les close-out pour aller finir près du cercle. Mais voilà, il y a un côté un peu comme ça, quoi, où si tu as besoin d'un panier, tu vas aller rechercher Eric Gordon, tu le fais entrer ou tu fais appel à lui sur le terrain. Sur ces paniers, sur ces moments, on va dire, où les Suns ont vraiment besoin d'un panier, hein. Moi, j'ai pas mal d'exemples en tête cette saison, de moments où c'était chaud, un run de l'adversaire sur
Il
2-3
débloque le truc,
où on
ouais.
marque pas, et voilà, c'est ça, et où il arrive à débloquer le truc avec un 3 points qui fait ficelle, quoi. Les fameux much needed buckets, comme ils disent aux USA, quoi. Et
Ouais, mais
effectivement,
est-ce
lui,
que
il en
tu
a
as eu la
marqué.
même impression que moi sur certains matchs que quand Coach Vogel aurait pas dû le mettre sur le terrain dans les 30 dernières secondes, 60 dernières secondes pour des possessions défensives
Oui, alors ça pour moi c'est quelque
cruciales,
chose.
tu vois?
Alors ouais, si je peux, c'est intéressant effectivement. Je vais finir mon propos et je finirai peut-être sur ce truc-là
Ouais.
du paradoxe défensif. Mais
Opéra.
effectivement c'est une bonne question. En fait, justement ce que j'allais dire est en lien avec ça. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de finir le truc. C'est qu'en fait, donc du coup il a un peu ce côté de solution quand c'est chaud pour Phoenix, et notamment parce qu'il a cette capacité à ne jamais se cacher, en fait, sur ce type de tir-là. Et en fait, il y a une stat qui illustre vraiment, vraiment très bien ça. C'est quand on regarde un peu sur le quatrième quart-temps et sur les tirs à 3 points pris par les Suns dans le quatrième quart-temps. Donc on sait, hein, voilà, on n'est pas trop revenu dessus pour l'instant dans ces bilans, mais que c'est un peu la faiblesse de Phoenix, la faiblesse récurrente, même si ça va un peu mieux pareil depuis quelques semaines. Mais les quatrièmes quart-temps, ce côté, l'équipe s'essouffle un peu, on n'arrive plus à surprendre vraiment l'adversaire. Et on choque, hein, clairement, on peut le dire, en plusieurs occasions, c'est ce qui s'est passé. Donc il y a ce côté-là, il y a le côté de certains joueurs qui sans fuir leurs responsabilités. C'est d'ailleurs un des reproches qu'on peut faire un peu à Booker, légèrement, on va dire, sur le début de saison, sont un petit peu en dessous de ce qu'ils produisent les trois autres cartons, on va dire, quoi. Et c'est le cas de Booker, c'est le cas de Bill, ou d'Allen notamment, et c'est pas du tout le cas de Eric Gordon, qui justement sait prendre ses responsabilités-là. Donc la stat que je voulais donner, c'est donc le nombre de tirs à 3 points pris dans le quatrième quart-temps cette saison par des joueurs des Phoenix Suns. Le premier, c'est Kevin Durant, qui en a pris 76, et le deuxième, c'est Eric Gordon, qui en a pris 71. Donc c'est beaucoup plus que Booker, qui en a pris 55, ou que Allen, qui en a pris 45. Il y a même une énorme différence avec Allen, ce qui est fou, si on se dit que voilà, Allen, c'est censé être le meilleur shooter de NBA cette saison, et il a pris que 45 tirs à 3 points dans le quatrième quart. Et pareil, sa réussite, en fait, elle est plutôt bonne, et elle chute pas énormément par rapport à sa réussite global. Donc il est à 36,6% en quatrième quart-temps contre, on l'a dit, environ 39% au global. Mais on a des grosses chutes du côté de Booker, donc qui passe à 32% et demi dans le quatrième quart-temps. Du côté d'Allen, on en parlera après, il est à plus de il a près de 50% à 3 points au global, mais dans le quatrième quart-temps, il est seulement à 35,6%. Tu vois, donc il y a vraiment ces côtés-là. Pareil pour Bill, où ça chute aussi. Alors il y a l'anomalie KD. KD, c'est quand même un truc de malade. Donc, c'est celui qui a pris le plus de 3 points pour les Suns dans le quatrième quart-temps. Et il a mis 46,1% de ses tirs à 3 points dans le quatrième quart-temps. Donc, en fait, le choke, c'est pas de la faute de KD, clairement. Lui, il est monstrueux. Donc, pour revenir sur Gordon, voilà, il y a ce côté, il se cache pas. Et en fait, dans ces moments-là, malgré tout, il sert à quelque chose. Et donc, pour finir par répondre à ta question, Hicham, et après te relancer si tu as quelque chose à dire de plus sur lui, bah, en fait, c'est concomitant, c'est-à-dire qu'on a besoin de lui dans ces moments-là parce qu'on sait qu'on va pouvoir compter sur lui, ne serait-ce que pour prendre les tirs. Tu vois, et effectivement, on a souvent reproché, donc dans les catastrophiques quatrième quart-temps qu'on a eu cette saison, on a souvent reproché aux Suns de pas assez tirer à 3 points, justement. Lui, il a pas ce problème-là, il n'hésite pas, et souvent, en fait, finalement, ça rentre vu que c'est quand même un bon shooter et que ça le reste dans ces situations de stress et de clutch. Donc voilà. À l'évidence, par contre, il y a un ajustement à faire, comme tu l'as dit, sur des séquences très spécifiques où c'est tellement problématique de le laisser en défense que, effectivement, il faut vraiment limite. Alors, ça c'est quand tu peux te permettre d'avoir une faute à donner, mais ou être malin, je sais pas, faire une deflection ou ce genre de trucs-là sur des actions adverses dans les dernières secondes, dans les dernières minutes, effectivement, juste pour le sortir sur des possessions défensives. Oui, ça a complètement du sens, mais moi j'ai vu Vogel le faire quand il le pouvait ces dernières semaines le plus possible, donc c'est plutôt rassurant. Voilà, et après, effectivement, dans la perspective des playoffs, son niveau défensif est un peu inquiétant, je le concède. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter concernant Eric Gordon? Donc, je ne sais pas si je donne ma note, mais moi, effectivement, je donne 8 sur 10, donc seulement un de
Non,
plus, 8 sur 13, pardon,
sinon,
8 sur 13, donc vraiment pas très loin sur l'échelle de Nash, donc vraiment
ouais.
pas très loin de la tienne finalement, mais un peu au-dessus quand même.
Ouais, donc pour toi, il a quand même significativement atteint, voire dépassé les attentes que tu avais vis-à-vis de lui en début de
Non,
saison.
il est dedans en fait.
Il est
Il est
dedans?
dedans. Il est
Ouais.
pile dedans pour moi. Et,
D'accord.
vraiment, je m'attendais à ça. Je m'attendais à avoir de la sécurité au niveau du scoring en sortie de banc. C'est ce qu'il apporte. Je m'attendais à avoir un mec qui peut rentrer dans le 5 pour compenser les absences de nos deux All-Stars là sur le backcourt.
Non.
C'est ce qu'il fait. Effectivement, voilà. Pour moi, franchement, j'ai pas vraiment grand-chose à lui reprocher. On savait que défensivement, ce serait un peu dur. C'est peut-être plus dur
J'avais
encore
pas que ça
que ce
serait
qu'on
aussi
attendait.
compliqué.
Ouais, c'est
J'avais
vrai.
pas que ça serait
C'est vrai que
aussi
c'est peut-être
compliqué
encore
pour lui
plus
en
dur que ce qu'on
défense.
attendait. C'est possible.
Ouais. Moi, c'est là où j'ai été déçu par rapport à mes attentes. Il est en ligne avec ce que j'attendais de lui au niveau offensif parce que je me rends compte aussi qu'il a quoi? 35,
C'est ça.
35 balais, 34,
35 ans.
35 maintenant.
Ah, 35 ans comme Katie, ouais.
Voilà, donc c'est plus un tout jeune, donc je m'attendais à ce qu'il soit pas le mec super explosif qui va te scorer 20 pions par match, comme il l'était il y a quelques années encore. Mais par contre, défensivement, je ne savais pas que ça serait aussi chaud. Et ce que je voyais, ça me choquait, ça m'énervait. C'est pour ça que j'ai eu ces rants, hein, comme tu disais, les semaines passées et les mois passés. Mais comme d'autres joueurs dans différents secteurs de jeu, bah, je constate une amélioration de sa part. Il fait de meilleures choses, je trouve, depuis allez, 4-5 matchs. Je suis moins énervé contre lui sur pas mal, enfin, sur des séquences
Oui, il a même fait
défensives.
quelques plays défensifs, je crois que c'est contre Sacramento où il fait des plays défensifs, pas trop mal
Ouais,
dans le
il fait
match.
quelques trucs. Puis il se bat plus et mieux. Il fait
Ouais.
moins, moins le mec pas concerné, pas concentré,
Oui,
ça
un
ça va
peu, c'est un peu nonchalant parfois, et t'as raison,
ouais,
j'ai vu ça cette
nonchalant.
saison, c'est vrai.
C'est ce qui m'énerve le plus dans l'attitude des joueurs, c'est quand ils sont nonchalants, qu'ils aient leurs limitations physiques ou quoi en défense, ok, mais que le mec se donne pas à fond de ses capacités, à 100% de ses capacités, ça a tendance à m'agacer un peu, et c'était vraiment l'impression qu'il m'a donné pendant des dizaines de matchs. J'ai l'impression que ça va un petit peu mieux, et faites que ça dure. Voilà.
C'est ça, là, ce sera le mot de la fin pour Gordon. On va peut-être essayer de faire un tout petit peu plus vite pour les trois gros joueurs qui nous restent là dans le backcourt des Suns. Écoute, on va passer à Bradley Beal. Je vais commencer sur Beal pour changer un peu. Alors, bah, moi, je lui ai mis 9. Je vais expliquer tout ça. Donc, 9 sur 13. On s'attendait vraiment à ce que ce soit une révolution dans sa carrière, un changement de rôle complètement enfin, intégral, quoi, par rapport à ce qu'il avait connu, notamment ses dernières saisons à Miami. À Miami, qu'est-ce que je raconte? À Washington, évidemment, chez les Wizards. Et à Miami, d'ailleurs, drôle de lapsus, j'avais pas fait gaffe. Pardon. Désolé,
Ouais.
fan du 8. Bisous, bisous. Et donc, du coup. Pour revenir sur Bill, ouais, donc voilà, on s'attendait vraiment à ce que ce soit que beaucoup de choses changent pour lui en passant dans ce rôle de troisième option instantanément, presque instantanément, parce qu'effectivement il a fallu quand même qu'il revienne de ses blessures là du début de saison. Depuis donc qu'il est revenu de sa blessure à la cheville, donc la deuxième blessure qu'il a eue cette saison, ça se passe plutôt bien. En tout cas, il arrive à enchaîner les matchs. Alors il s'est reblessé juste avant ce All-Star Break là. Il s'est blessé lors du match contre Sacramento d'ailleurs, je crois. Juste avant, et ça, il a pas joué le match contre les Pistons. Et il est blessé à l'aine, mais bon, on va voir. À l'ischio, quoi, on va voir, ça va. A priori, selon Vogel, c'est pas trop grave, mais la dernière fois qu'il nous a dit ça, il avait quand même manqué 3 semaines, donc on va voir. Mais en tout cas, voilà, dans ce qu'a produit Bill là, sur les 30 ou 31 matchs qu'il a joué avec les Suns cette saison, c'est quand même plutôt, ouais, c'est ça, 30 matchs exactement. C'est particulier, effectivement. Il y a vraiment donc cette adaptation à ce nouveau rôle. C'est la première fois depuis, j'ai noté ça, depuis 2015-2016, qu'il est à moins de 25% de usage. Donc il est à 24,4% là cette saison. Donc voilà, ça illustre bien ce changement de rôle, clairement. Mais finalement, et c'est ça qui est peut-être le plus intéressant avec la production de Beal, puisqu'on s'attend évidemment à ce que ce soit le troisième scoreur de l'équipe, c'est qu'il est dans ses standards en fait en termes de réussite, dans les standards, on va dire, de ses bonnes années, pas de ses meilleures années, mais plutôt de ses bonnes années avec Washington, notamment les 2 années de gros, 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 gros scoring. Où il était à 1,17 et à 1,16 possessions, donc ces années où il est à 30 points par match en 2018-2019 et 2019-2020, il était à 1,17 points par possession, puis à 1,16 points par possession, et cette saison, il est de nouveau à 1,16 points par possession, pardon, donc avec un usage bien inférieur, donc c'est assez intéressant de constater ça déjà dans un premier temps, et en fait, d'une manière générale, ça dessine un Bradley Beal qui accomplit, si on regarde un peu les différentes stats avancées, on va dire, qui accomplit en termes de rendement, quelque chose qui est très comparable à ce qu'il faisait ces dernières années du côté de Washington, sur la moyenne, hein, vraiment. Et donc, du coup, le changement de rôle, et c'est ça qui est peut-être le plus paradoxal avec lui, l'énorme changement de rôle qu'il vit cette saison, n'a pas vraiment affecté sa production. Évidemment, il marque moins, mais c'est parce qu'il a moins de tirs, tout simplement. Il a moins de kick et shoot en tant que troisième option. Mais au-delà de ça, en fait, il est à peu près aussi efficace. Donc, dans ce domaine-là, le scoring, c'est, satisfaisant, à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Peut-être qu'on pouvait espérer un peu mieux, sachant que justement, en tant que troisième option, il est censé avoir plus d'espace. Mais il y a aussi cette problématique des blessures. Et de ce point de vue-là, on peut au moins reconnaître que voilà, il a réussi à revenir à un niveau physique qui lui permet d'assurer un rendement, ma foi, plutôt de bonne facture, sans être exceptionnel. Voilà. Donc sur le plan offensif, c'est quand même plutôt satisfaisant. Sur le plan défensif, il y a eu peut-être une découverte. En tout cas, on ne s'attendait peut-être pas à ça du côté de Phoenix. Ça se voit pas vraiment dans les métriques. Ça, là, pour le coup, c'est vraiment plutôt du high test et dans tout ce qu'on a pu observer dans les matchs depuis le début de la saison. Il est vraiment très impliqué en défense. Il est vraiment bon sur l'homme et c'est une dimension qui était peut-être un peu inattendue et qui fait du bien en fait, tout simplement dans l'effectif de Phoenix. Tu l'as dit depuis qu'il est vraiment intégré à la rotation. Enfin, depuis qu'il est revenu de cette deuxième blessure, cette blessure à la cheville, Phoenix tourne mieux défensivement. Et en fait, sa présence n'est pas étrangère à ça. Il y a la stabilisation qu'il apporte par rapport évidemment à Okogie en attaque, en termes de minutes, mais même globalement, par rapport à des joueurs qui étaient pas forcément meilleurs que lui dans ce domaine-là, franchement, le rendement est plutôt bon, quoi. Vraiment plutôt bon du côté défensif. Donc voilà, des deux côtés du terrain, pour moi, il est plutôt dans les attentes, voire un peu au-dessus. Il est un peu au-dessus défensivement. Alors tu vas me dire ce que t'en penses juste après, mais voilà, moi ce qui me fait, c'est un peu comme Nurkic hier, c'est d'ailleurs pour ça que je lui mets la même note, même s'il est plus important évidemment dans le jeu, enfin dans le jeu de scène, c'est à voir, mais en tout cas dans la répartition du scoring. Mais si je le mets dans le usage, ouais, tout simplement, mais si je le mets à peu près au même niveau, en tout cas en termes de notation, donc à 9 que Nurkic, c'est sur ce côté-là d'investissement collectif, ce petit plus par rapport à juste bien faire le taf par rapport à ce que t'attendais. Il y a cette espèce de d'étincelle qu'il arrive à amener. On sent que c'est un comment dire un mec un peu plus extraverti, on va dire plus chaud que des mecs comme Durant ou comme Booker, qui sont plus des leaders par l'exemple, par le sérieux, l'investissement, le taf et tout machin. Même si on a vu que Booker est un leader très vocal cette saison, mais il y a le côté qui a été embrassé par Bid cette saison comment dire, de franc-parler face aux caméras. Il a fait plusieurs déclarations vraiment pas du tout langue de bois, on va dire, au micro des conférences de presse ou des journalistes de l'Arizona après les matchs sur des mauvaises performances, en critiquant parfois complètement la prestation de l'équipe et en s'incluant dedans, en disant qu'il fallait faire beaucoup mieux et tout. Donc de ce point de vue-là et d'une manière générale sur tout ce qui diffuse en termes d'ondes, on va dire, c'est comment dire, assez intangible, mais moi je le sens comme ça. C'est extrêmement positif. Et par rapport au tableau de cauchemar qui avait été dressé par le copain de Joe de Wizards France quand il était venu l'année dernière, enfin l'été dernier plutôt, c'est vraiment vraiment rassurant et c'est vraiment satisfaisant, quoi. Il a très bien compris son rôle dans l'équipe, il l'a très bien embrassé et il joue plus que le jeu, quoi. Il fait exactement ce qu'il faut en fait pour être la troisième option performante dont l'équipe a besoin. Voilà, on va peut-être demander encore un peu plus de réussite au tir, profiter un peu plus du fait qu'il joue avec Booker et avec Durant. Mais pour le reste, franchement, moi, je suis très satisfait de ce qu'a apporté Bill quand il a joué. Le bas blesse peut-être là-dessus. Mais on peut remarquer que donc sur les 55 matchs de la saison, pour l'instant, il en a joué 30, donc c'est un peu plus que la moyenne. C'est pas si mal que ça, encore une fois, compte tenu de ce qu'on pouvait craindre vu ses antécédents médicaux. Toi, quelle note tu lui as donné, Hicham, et comment tu justifies ça?
Alors c'est vrai que c'est pas facile de noter Bill pour plein de raisons. Moi je vais lui mettre 10, un petit peu plus que toi, parce qu'il y a des tas de choses que j'aime bien chez le joueur et le personnage. J'aime bien son côté vocal, ça se voit que c'est un mec qui est naturellement dans une certaine forme de leadership, ou en tout cas tu sens que c'est un mec qui peut être une vraie voix pour le vestiaire, comme tu l'as dit. Donc bien sûr tout se passe sur le terrain. Sur le terrain, qu'est-ce qu'il a produit? Bon bah probablement sa plus faible moyenne de points depuis peut-être sa saison rookie, j'imagine, ou peut-être même en carrière, je sais pas, j'ai même pas regardé. Mais en tout cas une de ses moyennes de points les plus faibles, ça c'est sûr, en carrière. Après, à la passe, au rebond, tout ça, probablement que par rapport à son temps de jeu, il n'est pas très très loin de ses standards habituels à Washington, mais il a plus que des circonstances atténuantes. Une petite seconde. Il a plus que des circonstances atténuantes, à savoir, bon, il revient de blessure. Alors, il avait une première blessure au dos, il est revenu de cette blessure au dos en tout début de saison, enfin, qu'il a contracté en tout début de saison, puisqu'il avait joué quelques matchs de pré-saison. Il revient et puis il se refait mal au dos. Donc c'est reparti pour un tour de manège. Ça se compte en dizaines de matchs ratés à chaque fois, plus ou moins. Et puis le dos, c'est pas facile. On peut être très craintif par rapport à ça, se sentir assez fragile quand on a des douleurs à ce niveau-là. Et donc, il y a déjà ça, les blessures. Après, il y a aussi le côté, t'es la star d'une équipe à l'Est, tu traverses quasiment le pays de bout en bout pour devenir d'office, et tu le dis à ton introduction, lors de la conférence de presse, la troisième option. Voilà, il savait où est-ce qu'il mettait les pieds, il n'a pas cherché à marcher sur les plates-bandes des stars, et ça, je trouve que c'est tout à son honneur, c'est-à-dire que vraiment, il a montré de très très belles dispositions mentales, psychologiques, d'une manière générale, dès le début, et pour moi, ça vaut ce que ça vaut aussi, par rapport à la notation globale, on va dire, de ce deux tiers de saison. Mais au niveau des pourcentages, effectivement, en attaque, on voit qu'il y a un petit souci pour Bill. Un petit souci, bon, pas un énorme souci, mais à 3 points, surtout depuis la dizaine de matchs là qui vient de s'écouler, où vraiment il a piqué un petit peu du nez au niveau de ses pourcentages à 3 points, mais ça reste toujours honorable. Je vois sur le site NBA.com qu'il est toujours à 36% quand même sur la saison, ce qui est pas non plus vilain. Mais voilà, il n'a pas des pourcentages extraordinaires à 3 points et en lancer franc. Et du coup, il est à 18 points par match. Alors, vu son usage rate, comme tu l'as très bien signalé, c'est pas choquant qu'il soit à moins de 20 points par match, parce que il a beaucoup moins de ballons par le passé et beaucoup moins l'opportunité de scorer. Par contre, ce qui m'a beaucoup surpris et agréablement aussi par rapport à Bill, donc non seulement c'est un personnage que j'aime beaucoup de par sa personnalité, sa maturité, son attitude et son côté un petit peu clownesque, un peu jovial, qui met un peu de qui rend l'équipe encore plus sympathique. Ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est son implication défensive. Ses tout premiers matchs de la saison, on voyait qu'il était un peu paumé, mais c'était pas par manque de volonté, de concentration, mais c'est parce qu'il maîtrisait pas du tout les schémas et peut-être qu'il était pas bien physiquement. Donc il était un petit peu à la rue en tout début de saison. Mais là, son dernier retour de blessure, c'est-à-dire quand il s'était blessé à la cheville contre je ne sais plus quelle équipe, Chicago, je crois, je ne sais plus. Donc, il revient de cette blessure-là. Et depuis ce moment-là, donc en gros depuis fin décembre, si je dis pas de bêtises, bah moi j'ai plutôt l'impression de voir sur le terrain un bon joueur d'un point de vue défensif, un joueur impliqué qui fait relativement souvent des bons choix. Il a quelques matchs références. On se souvient quand même que contre New Orleans, on gagne aussi beaucoup parce que Bradley Beal fait un bon boulot sur Zion Williamson. C'est pas rien. Un mec à qui il rend plusieurs dizaines de kilos et qui est pas facile à manœuvrer pour qui que ce soit dans la NBA. Et Bill a fait vraiment un bon boulot sur lui et à le provoquer aussi de l'autre côté du terrain en attaque. Donc voilà, il a des matchs références aussi. Il a scoré quelques fois contre les Wizards, contre les Lakers. Il a quelques explosions. Et voilà, donc là, on attend qu'il revienne de sa blessure au nez. Pour vraiment, après le All-Star Game, on l'espère, remettre un coup de bourrin et arriver en pleine forme, pleine patate pour les playoffs. Mais voilà, je vais mettre un 10 à Bradley Beal parce que je trouve que dans des circonstances très difficiles, il a quand même réussi à tirer son épingle du jeu, à montrer des belles dispositions d'une manière générale. Et je suis pas mécontent qu'on l'ait dans l'effectif et qu'on ait investi sur lui. Et je suis persuadé qu'il peut encore apporter bien plus, enfin bien plus, plus en tout cas, que ce qu'il a montré jusqu'ici, qui est déjà pas si mal. Mais il peut faire bien mieux, il a le talent et
C'est un peu
l'aura.
les encouragements du jury, quoi. C'est un peu ça.
Les encouragements du jury, ouais, c'est-à-dire capable, à son meilleur niveau, de s'élever. Bah, à des
Il fait
niveaux
encore
qui
mieux
se
quand
rapprochent plus de Kevin Durant et de Booker,
même.
pas ces niveaux-là, mais presque pas loin,
Ouais,
juste
tout à
le
fait,
cran en
tout à fait.
dessous, quoi.
Ouais, non, mais c'est intéressant. Et effectivement, moi, je retiens un peu. Enfin, Tu l'as dit peut-être d'une autre manière, mais tu as dit ça. On regrette pas le choix qui a été fait par le front office, et je pense que c'est peut-être ça qu'on va retenir pour conclure là, cette page sur Bradley Beal. Qu'effectivement, ce big three là qu'on annonçait et qui était très théorique en début de saison, on a vu enfin à quoi il ressemblait. On a vu là sur cette séquence de matchs, comme tu dis, depuis décembre, où ils ont joué tous les trois, malgré quelques petites absences par-ci par-là. Et on a vu que ce big three était tout simplement redoutable en fait, hein. C'est quelque chose qui élève vraiment le niveau de l'équipe.
C'est du 20 victoires, 7 défaites, je crois. Hein.
C'est ça, ouais, je crois que c'est ça
Le
aussi. Ouais.
deuxième tiers de saison, hein. Ah,
C'est
le
ça,
troisième.
il y a de la complémentarité, il y a comment dire, la menace vient de partout, enfin de l'altruisme aussi dans ce qu'ils font les uns pour les autres. Non, vraiment, c'est très intéressant, et pour moi, il a c'est une très très bonne troisième option. Vraiment exactement comme on attendait qu'il le soit. Donc vraiment, pourvu que ça dure comme tu dis et que le dernier pépin physique en date. Donc ouais, comme je te disais, en plus du nez, il est sorti là contre Sacto au bout de quelques minutes seulement. C'était
Ah, il s'en est pris
une
plein
alerte
le bouquet.
à l'ischio-jambier, mais selon Vogel, ça devrait revenir tranquillement après le All-Star Break. On verra tout ça. On va passer à la suite, et je vais te redonner directement la parole sur notre ami Grayson Allen, où là la note risque d'être assez élevée.
Ouais, grave, grave. Ah, je suis premier surpris. Désolé, Grayson, d'avoir été méchant avec toi.
On est tous désolés.
Ouais, surtout moi, j'ai été con parce que au début, j'étais là sur sa réputation en mode ah, mais qu'est-ce qu'on va chercher ce joueur-là alors qu'on a déjà plein d'arrière, on n'a pas besoin de lui, et puis merde, il a une sale mentalité, et puis ci, et puis ça, et puis je l'adore en fait. Je suis vite, j'ai vite été conquis, hein, ça a pris très peu de temps dès les premiers matchs, et il a fait que prouver et confirmer ses bonnes dispositions du début de saison bah, au fil des mois. Et au point d'en arriver à être aujourd'hui le meilleur shooter à 3 points de toute la ligue, en termes d'efficacité. Et en termes de volume, il n'est pas ridicule du tout. Alors, j'ai pas regardé, désolé, j'aurais dû mieux travailler ou quoi mon sujet avant. Mais je sais pas si tu as la stat, toi, où est-ce qu'il se situe
De
par
quoi?
rapport à tous
Du
les autres
nombre de
shooters.
3 points pris par match, tu veux
Ouais,
dire?
exactement.
C'est
On sait.
5,2, 5,2 cette saison.
Mais je me demande où est-ce que ça le positionne par rapport au reste de la ligue,
Ah, c'est une
par
bonne
rapport à
question. Bah, je
tous
vais regarder tout
les
ça. Vas-y,
gros
continue ton
shooters.
propos et je vais regarder tout
Ouais,
ça,
c'est gentil, c'est cool. C'est cool
comment
parce que
ça
j'ai
positionne.
pas pris le temps de le faire. Et du coup, on sait qu'en efficacité, il est au centième centile. Hein, c'est le meilleur, ou un des tout meilleurs. Il a quand même un beau petit volume pour quelqu'un qui n'a pas un usage pourcentage de dingue. Donc on sait que Grayson Allen, c'est surtout en sortie de système, en gros, c'est-à-dire. Être le mec qui va prendre le shoot après X décalage de KD, Booker, Bill, Nurkic, etc. Et du coup, quand la balle se retrouve dans ses mains en fin de possession et qu'il a au moins 2 mètres entre lui et son premier adversaire direct, on est super content parce qu'on s'imagine vraiment que le shoot va rentrer. Que ça soit à 3 points ou même à 2 points ou en attaque du cercle, il est efficace. Il est efficace, il est altruiste. On l'a vu récemment, il a donné 14 passes décisives, son record en carrière. Quand Booker a pas joué, je sais plus quel match d'ailleurs, ou Booker ou Bill, bref, je me mélange les crayons, je sais plus qui a pas joué un match récemment et il a planté 14 passes décisives pour pallier. Et voilà, et donc un joueur qui, à la
C'est un
niaque en
monstre,
défense,
Grayson.
pardon?
Pardon, j'étais en train de chercher. Du coup, j'écoutais d'une oreille, mais oui, je crois que c'est un match manqué par Booker.
Bon. Ouais, c'est ça. C'est, il me semblait que c'était Booker hein, et qui
Ouais,
nous
je
manquait
crois.
notre primary playmaker. En défense, Grayson Allen, pas une dinguerie. Moi, je m'attendais, je vais pas mentir, je m'attendais à quelqu'un d'un peu meilleur défensivement, mais de bien moins bon offensivement. Donc, quelque part, c'est une super surprise pour moi parce que en attaque, il fait plus que compenser le peu qui me déçoit à mettre entre guillemets en défense. Et c'est pas un mauvais défenseur, Grayson Allen. Il n'est pas mauvais. Il est juste pas parti. Il ne brille pas particulièrement par sa défense par rapport à d'autres athlètes, d'autres défenseurs de la NBA qui sont vraiment des gros défenseurs à leur poste, poste 2, poste 3. Donc, mais il n'est pas mauvais non plus. Par contre, voilà, Grayson Allen, il se démarque par son attitude sur et en dehors du terrain, sa capacité à apporter un peu de tout. Il te prend un peu de rebond, il te fait un peu de défense, il te donne quelques passes, quelques interceptions, des paniers à 3 points, en veux-tu, en voilà, quand il est libre, c'est ficelle, des attaques du cercle, des feintes, des tirs drop, il fait un peu tout, au point où on veut le garder. Clairement, tout le monde, je pense, et le management des Suns et l'ensemble de la fanbase veut absolument voir Grayson Allen rester aux Suns sur le long terme. Et du coup, voilà, une très belle surprise pour moi, au-dessus de mes attentes, largement, et une très belle production. Et je vais peut-être te surprendre, mais je sais pas, sur l'échelle de Nash, ouais, je vais pas lui mettre 13 à cause du fait qu'en défense, je trouve qu'il n'est pas à un niveau vraiment foiré classe, tu vois, où tu te dis, putain, le mec, c'est un two-way de dingue. Je vais lui mettre 12 parce que je pense qu'il le mérite complètement au vu de ce qu'on j'en attendait au début de saison, au vu du pecking order, qu'il est que la 4, 5e roue du carrosse, en gros, Suns, mais qu'il produit grave et il est super bon et il déçoit pas, il est régulier et bravo Grayson Allen, quoi. Je sais pas quoi lui dire, donc...
Bravo, c'est voilà, pas mal.
Bravo, un 12, voilà, un bon 12.
Ouais, c'est effectivement, tu me surprends pas tant que ça, dans le sens où j'avais décidé, comme toi finalement, de donner la même note à Grayson Allen que la note que j'ai donnée à nos deux franchise players, quoi. Enfin, donc à notre franchise player Devin Booker et à notre meilleur joueur Kevin Durant, je sais pas comment il faut le dire, c'est trop bizarre. Bref, mais en tout cas... Effectivement, moi, je vais mettre 11 à Grayson Allen. Je vais pas m'étendre de fou parce que t'as tout dit un peu sur ce qu'il fait de bien et voire de très très bien. Hein. Voilà, cette excellence au shoot, c'est quand même un truc de grand malade. Tout simplement, hein, vraiment, il y a peu de joueurs qui arrivent à produire des saisons aussi parfaites de ce point de vue-là. Hein. Vraiment, c'est rare, quoi. C'est rare, tout simplement. Et effectivement, ce 48, enfin, ce 50, presque 50%, 49, je crois qu'il est un peu plus de 49, là, en ce moment, avec cette excellence dans tous les domaines. Hein, dans le corner, il est à 55% de moyenne selon Cleaning the Glass.
Wow.
16e centile de la NBA. et notre corner, donc tout ce qui est above the...
Non, mais dans le corner, on est dingue. Entre Booker, KD, Bill...
Aussi à 5...
Gordon, Allen, on a des joueurs.
Il faudrait regarder collectivement. J'avoue, j'ai pas regardé ce que ça donnait collectivement, mais effectivement, Booker aussi. Booker en prend beaucoup moins pour le coup. Après, c'est aussi bien sûr les les positions. Et donc non corner, il est quand même à 46%, ce qui est absolument monstrueux également. Et dans le 95e centile de la NBA au total. Donc effectivement, il y a cette réussite au shoot à 3 points qui fait tout, hein, vraiment. Parce que pour le reste, il est, voilà, à 2 points, il est relativement efficace, mais sans plus, quoi. C'est vraiment un artilleur et on a senti en fait progressivement.
Il a des moves,
hein.
Il a des moves.
Alors, je parle juste de finition parce qu'effectivement, pour le coup, ça allait être mon point suivant. Bon, alors, pour finir à 3 points, on a senti vraiment au fil de la saison qui prenait confiance et qui s'installait vraiment dans ce rôle de shooter d'élite. On sait que c'est un shooter fiable, mais il n'a jamais été à 50% de réussite. Il était à 40% en fait ces précédentes années avec Milwaukee. Donc effectivement, il a passé un step. C'est peut-être juste une saison de surchauffe. On le verra sur la durée. Peut-être pas avec les Suns d'ailleurs, ce sera un autre sujet. Mais effectivement, sur son rendement global de scoring, comme tu le dis, ça se limite pas par contre aux 3 points, parce que il a, comme tu dis, il a du move, et même progressivement en fait cette confiance là qu'il a gagnée sur la ligne, enfin derrière la ligne justement, elle est arrivée à infuser tout le reste de son jeu, j'ai l'impression, progressivement, semaine après semaine. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les domaines, moi je le trouve de mieux en mieux en fait, Grayson Allen. Il y a ce fameux jeu à deux là avec Nurkic qui se développe de plus en plus de match en match et qui peut être vraiment une arme fatale, entre guillemets, mais un facteur X énorme pour les Suns, sachant que voilà, c'est en théorie, c'est les deux autres joueurs plus les trois All-Stars, quoi, Nurkic et Allen. Donc s'ils arrivent à jouer ensemble et qu'ils n'ont pas spécialement besoin des trois autres pour jouer, ça va complexifier encore plus la donne pour les défenses adverses. Donc il y a ces mécaniques là qui se mettent en en marche. Il y a cette importance dans la circulation du ballon qu'il a prise progressivement et qui, pour moi, aujourd'hui, est plus développée que ce que peut avoir, que ce que peut avoir Gordon. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Pour moi, franchement, Allen, vraiment à tous les niveaux, et même en défense, justement, en défense, il était ouais, souvent à la rue, quoi, en début de saison. Enfin, globalement, je suis d'accord avec ce que tu as dit, hein. On est un peu déçu par son apport défensif par rapport à ce qu'on attendait. Mais j'ai, comme pour beaucoup de joueurs, encore une fois, c'est allé avec l'embellie ces dernières semaines. Et vraiment, j'ai l'impression que ça va en s'améliorant parce que voilà, il y a cette confiance de plus en plus. Voilà, le seul bémol, moi, et pourquoi je ne vais pas jusqu'à 12, alors c'est parce que, comme pour les. J'aime bien trouver des bémols, je suis pessimiste de la bande. Mais le seul bémol, justement, et ça revient à ta question initiale que tu m'avais posée, au fait qu'il prend donc 5 tirs à 3 points par match, en moyenne, 5,2 tirs à 3 points par match. C'est la 79e moyenne de la Ligue cette saison. Donc voilà, le 79e joueur qui prend le plus de 3 points en moyenne. Entre Dorian Finney-Smith et Mike Conley, pour donner une idée. Donc c'est un volume correct, respectable. Mais
Et combien t'as dit, pardon? Combien au
hein,
classement?
5,2. 5,2 par
Mais
match.
tu regardais son classement, enfin, il est numéro
Oui, il est
combien?
79e. 79e.
79, t'as dit.
Ouais,
Ah oui,
79.
d'accord.
Donc il est très loin des vrais gros volumes à 3 points, sans aller jusqu'à Curry ou Doncic, mais vraiment des ultra spécialistes à la Buddy Hield, quoi, on va dire. Il n'est pas dans ce volume-là. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut-être serait à améliorer dans la suite. En fait, moi, j'ai du mal à comprendre qu'avec ces pourcentages globaux, hein, qui sont assez hallucinants, puisqu'il est à, il est à plus de 50% au tir en global, il est donc à 51% au tir en global et 48,2% à 3 points. C'est ça, c'est marque actuellement pour Grayson Allen. J'ai du mal à comprendre qu'ils prennent 8,4 titres par match. Bon, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Et c'est surtout seulement la sixième plus grosse moyenne de tirs tentés par match du côté des Suns. Il prend moins de tirs que Nurkic, en fait, tout simplement. Et ne serait-ce que ça, bah,
Et
ça
moins que
reste bizarre.
Gordon.
Alors, il y a eu le fait que Nurkic, là, il a enfin trouvé de la réussite au cercle. On en a parlé un peu hier, et qui fait qu'il a été beaucoup plus servi là sur les dernières rencontres, et que du coup, sa moyenne de tir a dû un peu augmenter. Mais 8,4, de toute façon, pour Grayson Allen, je pense que c'est pas assez, et qu'il y a peut-être un équilibre à trouver, peut-être un ou deux tirs de plus pour profiter vraiment de sa réussite de la saison, la maximiser, on va dire, quoi. Parce que je pense pas que son pourcentage baisserait vraiment drastiquement s'il prenait un ou deux tirs de plus. Voilà, voilà. On va passer assez vite pour essayer de finir l'émission à Monsieur Josh Okogie. Josh Okogie, qui est le dernier des Guards avec beaucoup de temps de jeu. Je te redonne la parole, Hicham. Qu'est-ce que tu as pensé du début de saison de Josh Okogie, enfin des 2 premières de saison de Josh Okogie, et comment tu le notes?
Moi, je vais commencer par dire que mon rêve absolu, ça serait d'avoir un joueur qui soit la fusion Dragon Ball Z de Josh Okogie et Eric Gordon. C'est Eric Gordon en attaque et puis c'est Josh Okogie en défense.
Alors, pourvu, si je peux me permettre, qu'il n'y en ait pas un qui ferme le poing au moment où ils font leur move là, parce que du coup, ça nous donnerait quelqu'un avec l'attaque d'Okogi et la défense d'Allen, et là, on serait dans la merde.
C'est
Voilà.
un joueur de proie. Ah ouais. Ouais, effectivement, ouais. Et faites bien votre fusion, les gars. Mais ouais, voilà, Josh Okogie, c'est le contraire d'Eric Gordon, quoi. C'est-à-dire, c'est un joueur qui défend bien, qui s'implique, qui essaie de combler des brèches, qui est assez physique, sur l'homme, dur, qui est capable de switcher, même s'il est petite taille, avec son volume physique, il arrive parfois à pas trop mal défendre, même en switch, sur des big forwards ou même des big tout court. Prend des rebonds, parfois il prend même des rebonds offensifs et il peut être vraiment intéressant. Bon, le problème, c'est qu'il n'a pas de shoot. Voilà, j'apprends rien sur Josh Okogie. Ce type n'a absolument pas de shoot, n'a pas un shoot fiable. Et en fait, le baromètre, c'est que quand Josh Okogie est bon, bah, on devient vraiment très difficile à jouer, quoi. Et depuis la saison dernière, c'est comme ça. Le type, quand il est bon, on devient vraiment difficile à jouer. Récemment, je sais plus
Quand
contre
il est
qui.
bon en attaque, quoi, c'est ça que tu sous-entends.
Oui, quand il est bon en attaque, ouais. Quand il apporte des choses en plus en attaque. Récemment, j'ai Alzheimer en ce moment, je ne me rappelle plus des matchs. Est-ce que c'est Sacramento? Est-ce que c'est Détroit ou un autre? Récemment, là, un de ses derniers matchs, il a été très très bon. Il a pris des rebonds offensifs, il a rentré des shoots, il Et il est impressionnant. Quand il est comme ça, il est impressionnant. Tu as l'impression que c'est un top 3-4 joueur dans une rotation qui vise haut. Et puis, il y a tous ces matchs où il va te briquer le premier tir tenté tout seul, libre, avec le premier défenseur à 8 mètres. Et il va te le briquer, hop, il perd sa confiance, il brique le deuxième, puis là, c'est fini. Il n'y a plus rien à attendre de Josh Okogie, de tout le match en attaque, parce que, voilà, peut-être qu'il rentre dans sa propre tête, peut-être qu'il n'a plus la confiance, il se dit, mince, j'ai loupé déjà deux shoots, j'ai briqué, je peux pas me permettre deux, alors que j'ai David Booker, Kevin Durant à côté, tu vois, il se dit,
Ouais.
mince, tu vois, je peux pas. Et ce qui peut être compréhensible en même temps, quand tu regardes, tu joues avec des méga stars, t'as pas leur level, donc les tickets shoot, t'as intérêt à bien les mériter, façon Grayson Allen. Donc t'as vraiment intérêt à montrer que t'es un joueur de calibre. Et du coup, bah, Josh Okogie, j'ai déjà d'une part, comme Eric Gordon, du mal à le noter parce qu'il est capable d'apporter des très belles choses et des très vilaines choses. Et j'ai envie de dire, surtout du côté offensif, ça va être plutôt vilain. Et côté défensif, ça peut être des très bonnes choses. Il est très irrégulier en termes de temps de jeu, en termes d'impact sur ses matchs. Il y a des matchs où tu vois une ligne de stats, il a, je sais pas moi, 14 minutes, 0 points, 1 rebond, 0 passe, 0 sur 2 au shoot, 0 sur 2 au lancer franc. Tu regardes la ligne de stats, tu te dis, mince, c'est 14 minutes de trop pour lui. Et puis, il y a des matchs où tu vois qu'il remplit la stat sheet, quoi. Il est là, 9 points, 5 rebonds, 3 interceptions, machin. Tu fais, waouh, il devrait jouer plus. Donc, la note que je vais donner à Josh Okogie pour pas trop tourner autour du pot par rapport à ce que j'en attendais, c'est toujours par rapport à mes attentes que je situe le baromètre. J'en attendais pas énorme, mais j'en attendais un peu mieux. Donc, pour moi, Josh Okogie m'a déçu un peu. Pas trop non plus, mais bah quand même un peu déçu par rapport aux attentes initiales. Et vraiment, le shoot, moi, je comprends pas qu'un joueur NBA puisse être autant en désamour avec le geste le plus fondamental du basketball, qui est de rentrer la balle au cercle. Et du coup, j'hésite entre 5 et 6. Mon cœur balance, j'ai pas envie d'être trop méchant avec Josh Okogie, alors je vais lui mettre. Oh là là, si je mets 7 à Gordon, je peux pas mettre 6 à Josh Okogie, quoi. Alors, je vais lui mettre 5.
Il met
Je vais lui
5,
mettre
d'accord.
5. Ouais, je vais lui mettre
Intéressant.
5. Voilà, déception par rapport à ce que j'en attendais. Dans l'absolu, un joueur qui apporte pas grand-chose en attaque et vraiment quasi rien du tout quand il ne rentre pas ses shoots libres. Ou qu'il ne prend pas de rebond offensif. Il n'a pas de capacité en isolation à faire des différences. Il est capable en attaque de close-out, mais comme les adversaires savent qu'il va rarement jusqu'au bout et qu'il va essayer de la ressortir, ils ont tendance à bien boucher les couloirs de passe quand ils tentent des aventures ligne de fond. Donc,
Oui, il est
ouais,
prévisible.
je pense qu'il ne fera pas partie de la rotation play-off, ou
Non,
alors
non,
il
c'est
va
sûr.
vraiment falloir qu'il monte sur les 27 derniers matchs, que c'est un lockdown
C'est sûr.
defender sur le point of attack, et qu'il gratte du temps de jeu à Eric Gordon, parce qu'à mon avis, il grattera pas du temps de jeu à Royce O'Neal
Ah non.
sur les postes 3-4. Et moi, j'attends avec impatience que ça se concrétise avec Thaddeus Young et voir la triplette Thaddeus Young, Bol Bol et Eubanks, on en parlait hier, lequel de ces trois-là va tirer son épingle du jeu en vue des playoffs. Moi, le cheval sur lequel je mise, c'est Thad Young, quand ça sera concret. Et voilà, du coup, Josh Okogie, pour moi, là où il a une carte à jouer, c'est sur le backcourt. Mais est-ce que la défense de Josh Okogie va être
Compenser.
plus importante pour Coach
Ouais.
Vogel que l'attaque d'Eric Gordon? Je pense pas. J'y crois pas même une seconde en réalité, donc je pense pas qu'il fera partie de la
Bah,
rotation
ouais.
playoff.
Pour répondre à cette question spécifique qui est un peu, ouais, peut-être la seule qui vaille avec lui, on a vu la saison dernière que c'était très compliqué de l'aligner en playoff, on le savait, hein, on s'en doutait vraiment. Je pense qu'on peut s'attendre à la même chose cette année. Peut-être des missions très 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 spécifiques sur des moments où il prend l'eau face à un meneur qui est en feu, quoi, pour le calmer un peu. Mais sinon, effectivement, on risque de pas le voir du tout avec un minutage vraiment très 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 réduit. Ouais, moi, finalement, ce sera la note la plus Le plus gros écart, pardon, de notes entre nous sur aujourd'hui, même d'une manière générale, hein, depuis hier, puisque moi j'ai quand même choisi de lui mettre 7. Alors j'ai vraiment conscience de mon biais. J'aime ce joueur en fait. Enfin, moi, je place pas le shoot. J'ai jamais placé le shoot comme le truc principal qui me fait kiffer un joueur, on va dire. Même si paradoxalement j'aime beaucoup Stephen Curry, mais tout ça pour dire qu'effectivement moi ce qui me fait vraiment kiffer c'est ce genre de joueur-là qu'ont du seul qui donne vraiment tout pour l'équipe qui finalement avec tous ces petits trucs, les rebonds offensifs, voilà les ballons en 50-50 qui l'arrachent, les playmaking le playmaking pardon défensif, enfin voilà chaque petite action de ce type-là, pour moi, vraiment, c'est le type d'action qui réchauffe le cœur d'un fan, en tout cas de moi en tant que fan. Donc, effectivement, j'ai toujours de la sympathie et de la tendresse pour Geoff Okogie. Je pense que ce sera toujours comme ça, quoi qu'il arrive. Et même si, effectivement, il est absolument catastrophique au tir. Et le problème, il est là depuis le début. Hein, tu l'as dit, c'est toujours le même problème. Son rendement offensif est complètement insuffisant. Et il l'empêche, en fait. Moi, je me souviens, alors, tu n'étais pas là, Hicham, mais en début de saison, quand on avait fait nos hot takes après 2 ou 3 matchs, je crois, avec Greg, après 3 ou 4 match, j'avais balancé en hot take, Josh Okogie cette saison il va faire une all defensive team, et donc c'était une hot take, là on avait rigolé, j'avais dit quand même à cette occasion que cette hot take prendrait du corps dans le cas où il arriverait à avoir de la régularité en attaque tout simplement, et qu'en fait c'est le seul truc qui enfin, c'est le truc qui débloquerait tout en fait au niveau de son temps de jeu, donc au niveau de son implication générale et tout. Donc effectivement, le problème est toujours le même. Il reste entier avec Josh Okogie. Il est incapable d'apporter vraiment de manière régulière en attaque. Ça va être quelques petits moments où il va être quelques petits matchs, j'allais dire, ou même pas en fait des moments dans le match où il va être en réussite. Mais globalement, il est clairement négatif de ce côté du terrain. Et à l'inverse, comme tu l'as dit, c'est le j'avais compris Allen, mais c'est bien effectivement le double en négatif de Eric Gordon. Il est excellent vraiment du côté défensif, et justement il est peut-être encore plus proche de Grayson Allen. En tout cas, sur le playmaking défensif, il est vraiment parmi les classifiés comme wing par
Pas
Kings.
loin d'être notre meilleur défenseur, hein, tout
Bah
simplement.
ouais, bah je pense, oui, bah c'est Kevin Durant en termes
C'est Kevin Durant, ouais, je pense
de
aussi.
sur le volume et le temps de jeu, on va dire,
Ouais.
sur l'importance dans le système défensif, parce qu'encore une fois, Okogie, malheureusement, tu ne peux pas l'utiliser sur beaucoup de minutes, mais effectivement, oui, je pense qu'individuellement, c'est sans doute notre meilleur défenseur,
Ok,
d'autant
maintenant, est-ce que
plus
c'est
que
pas Royce O'Neal? Parce que
c'est une bonne
franchement,
question.
il m'a
C'est une
impressionné
question
sur Royce
qu'on va
O'Neal.
être sans doute amené, enfin j'espère amené à se poser dans les semaines à venir. Donc oui, donc pour finir sur Josh, effectivement ce playmaking défensif où il est vraiment dans l'excellence totale, dans le 93e pardon, centile concernant les wings pour le block percentage, dans le 95e centile concernant le steal percentage, et sa spécialité c'est vraiment le rebond offensif, quoi, où il est monstrueux, et dans le 99e centile pardon,
Et la saison
pour
dernière, c'était
les
déjà le
joueurs de
cas.
sa
Enfin,
catégorie. C'était
c'était pas
exactement le
une
cas la saison
bêtise, mais
dernière,
c'était déjà le cas.
avec un taux qui est à 7,6% quoi de rebonds offensifs pris sur les tirs de champ adverses. C'est
C'est ouf.
monstrueux,
Pour un joueur de
c'est
sa
vraiment
taille, c'est
monstrueux.
ouf.
Et
Pour
pour moi,
donner
voilà.
l'idée aux auditeurs, un big man, un mec vraiment grand, pivot, qui prend
Ouais.
beaucoup de rebonds offensifs, il situe grosso modo entre 10 et 12%.
Je vais regarder Bam Adebayo, qui est plutôt une bonne référence dans ce style-là pour voir un peu ce que ça donne. Mais
Ouais,
donc du coup
dans ces eaux-là, quoi.
pour
Bon,
finir
alors,
avec
oui, peut-être un Drummond ou un mec vraiment élite, peut-être va se
Ouais, t'as
rapprocher
pas tant que ça.
des 15-20%, j'imagine. Mais en général, les
Ouais,
big
t'as
men,
raison, ouais, parce qu'effectivement, Adebayo, c'est trop noyé dans la masse, en effet. Non, il faut vraiment, effectivement, comme tu dis, un spécialiste.
mais ouais, t'as
Bon,
raison, hein, Josh Okogie, je
bah,
suis
c'est
sûr
ça,
qu'il
ce
n'est pas la note
côté-là.
que tu lui as donnée, hein, c'est juste,
C'est ça.
moi, je le sanctionne beaucoup par rapport au shoot.
Non, mais je comprends. Et puis par le fait qu'il est injouable par rapport à ça, en fait. Il y a
Voilà.
vraiment ce côté-là, en fait. Mais je comprends tout à fait. Hein. Et vraiment, comme je te dis, moi, j'ai conscience aussi du biais que je vais avoir par rapport à ça, qui est vraiment que j'ai une tendresse pour ce joueur. C'est un peu le dernier escapé du gang qu'on avait l'année dernière. Même s'il était plus brun de ballon que les précédents, mais c'était quand même une équipe que j'aimais bien, l'équipe de l'année dernière. Et effectivement, voilà. Moi, c'est ce super pouvoir, pour reprendre une formulation chère à notre sélectionneur de rugby, Fabien Galthié, ce super pouvoir là du rebond offensif de Josh Okogie, c'est quand même quelque chose qui est utile en vérité. Match après match, c'est quelque chose qui sert. Et en fait, moi, ne serait-ce que pour ça, pour moi, il est pas loin de la moyenne, dans le sens où on sait ce qu'il apporte. Il est dans, voilà, c'est un joueur utile sur certains secteurs de jeu très très précis, la défense sur l'homme et le rebond offensif. Et là-dessus, il est élite en fait. Donc c'est quand même assez intéressant de l'avoir sur certaines séquences. Et en saison régulière, bah au final, bah pour moi, ça a un aspect positif. Si tant est qu'il n'est pas trop important dans ton dispositif, et c'est le cas cette saison. Donc pour moi, ça me convient, et c'est pour ça que je suis au-dessus de la moyenne pour Josh Okogie. Pour finir donc sur les guards, peut-être un tout petit mot très rapide sur l'ami Saben Lee, qui est le rescapé, hein, puisqu'on a eu on avait Jordan Goodwin aussi, mais qui est passé à la trappe. On l'aimait bien tous les deux en Jordan Goodwin, mais c'est donc Saben Lee qui a été conservé, évidemment. Il y avait moins d'enjeux de contrat autour de lui, puisqu'il est entouré. On le rappelle, voilà, on ne devrait pas le voir a priori dans la suite de la saison. On a noté Udoka Azubuike hier, donc on peut noter gentiment Saben Lee. Moi, je lui mets un petit 7 comme Josh, parce que pour moi, il a su apporter quand il a été sur le terrain quasiment systématiquement. Saben Lee, quand il a fallu compenser des absences, et que bah pareil, j'aime bien ce joueur en fait. Enfin, pareil que Josh, j'aime bien ce joueur, j'ai pas envie de le sanctionner parce qu'il joue pas. En l'occurrence, ce serait un peu dommage. Et je trouve que voilà, son état d'esprit est bon, et quand il est sur le terrain, il est pas du tout ridicule. Donc moi, pour moi, c'est un petit 7. Voilà, c'est un joueur que j'aime bien, qui est en fin de banc, et qui évidemment n'aura pas son mot à dire dans les gros matchs là qui s'annoncent. Mais enfin, on l'espère, hein, ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de blessés si c'est le cas. Mais voilà, c'est Saben Lee, moi j'aime bien, et c'est toujours cool de l'avoir justement au fond de notre banc en termes de guard de secours, on va dire, pour la saison régulière.
Ouais, par rapport à mes attentes sur Saben Lee qui sont nulles, en fait, j'en
Voilà,
attendais
ça, comme un peu comme
quasiment
Bol et Azubuike, on est à zéro niveau attente, quoi.
rien. Voilà, niveau attente, on est à zéro, donc normalement, pour lui, c'est censé être que du bonus. Moi, ce que je regrette avec Saben Lee, au même titre que Josh Okogie, c'est que ces mecs-là ont jamais appris à shooter, alors que c'est la base du basket. Ils font plein d'autres choses bien. Je veux dire, Saben Lee, comme tu l'as très bien dit, il fait plein de choses pas mal du tout. Alors, c'est pas un bon passeur, c'est pas un mec qui est réputé pour sa propension à délivrer des passes et faire des belles passes. Mais c'est un joueur qui a la hargne en défense, comme Josh Okogie, qui est capable de prendre des petits rebonds de ci, de là, comme Josh Okogie, qui est capable d'attaquer le cercle avec sa dimension athlétique, comme Josh Okogie, et qui n'a pas de shoot, comme Josh Okogie. Donc, moi, les minutes que tu donnes à Saben Lee, j'ai envie de dire autant les donner à Josh Okogie. Et s'il fallait que je note, ouais, bon, je vais mettre 6 parce que c'est soit 6 soit 7. Il est dans ce que j'attendais, c'est-à-dire malheureusement un joueur qui n'apporte pas beaucoup et qui est resté dans les mêmes défauts que l'année dernière. Alors, ça ne veut pas dire que je l'aime pas. Moi, déjà l'année dernière, j'avais une affection pour ce joueur-là qui montrait des petites choses. Cette année, j'aurais voulu qu'il progresse. Il ne l'a pas fait. En tout cas, ce que j'ai vu au shoot, la mécanique de shoot, c'est un film d'horreur. Franchement, tu regardes ça au ralenti, tu fais des cauchemars pendant une semaine. C'est.
Et puis il a un peu peur de les prendre parfois. On sent qu'il est, voilà, il est pas à l'aise sur ça, quoi, sur
Puis il est
le
horrible,
shoot.
son shoot là de côté,
Ah. Par
cassé.
contre, ouais, ses drives sont pas mal effectivement. Donc quand il arrive à driver, c'est pas trop mal.
Ouais, quand il drive, il a cette dimension athlétique comme Josh Okogie. Alors après, c'est pas
Ouais,
un
puis il porte bien la balle,
physique.
enfin il tient bien la balle, le dribble est propre, quoi.
Ouais, ça va, il a cette qualité de dribble, pareil, comme Josh Okogie, qui est pas mauvais pour
Oui,
tenir
c'est
le
vrai, t'as
ballon,
raison.
il perd pas trop de ballons.
T'as raison, en un peu plus fort, c'est un peu le même joueur.
C'est un peu. Et en plus, ils ont. Physiquement, bon, il est un petit peu plus petit, Saben Lee,
Oh,
et un
il est
peu moins
plus bif quand
musclé,
même.
mais.
L'ami Josh, Geo, c'est quand même un costaud, quoi.
Ah, c'est
Et
quand même
Saben Lee, il est un peu plus petit, un peu plus fin, quoi.
c'est un petit bufflon, quoi, ouais. Et du coup, bon, que dire sur Saben Lee? Bah, dommage pour toi, mon grand, que t'aies jamais progressé dans ta qualité de shoot, parce que c'est peut-être ce qui va te coûter une carrière NBA,
Qui est en
parce que
train,
je
ouais,
suis pas
déjà.
sûr que ce mec-là reste longtemps dans la NBA, vu ce qu'ils
En
montrent en
fait,
termes de shooting, et c'est dommage.
c'est une bonne question. Ce sera peut-être une question à se poser pour une prochaine émission parce que on va manquer de temps. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui fait l'aller-retour entre la J-League et le bout de banc depuis des années, en fait, Saben Lee, depuis son arrivée en NBA, en gros. Et effectivement, on peut s'interroger. C'est pas, voilà, je pense qu'il n'y a pas de progression et que ça va être difficile pour lui de s'installer réellement. En revanche, est-ce que c'est pas le joueur parfait de J-League? C'est une autre question. Alors, on va clore cette émission avant de te dire au revoir, Hicham. Je voulais juste parler parce qu'on n'en a pas du tout parlé. On a évoqué un peu Royce O'Neal et on a évoqué un peu Thad Young, qui, on le rappelle, donc c'est toujours pas officiel, mais devrait normalement signer aux Suns là dans les prochaines heures. Je voulais juste évoquer rapidement David Roddy à travers un. Bah, j'avais demandé l'expertise de notre ami Tom de Dunk Hebdo, qui est
Notre
donc,
copain.
comme les auditeurs le savent, un fan des Grizzlies, donc on a eu plusieurs fois dans l'émission. Effectivement, c'est un des meilleurs analystes de NBA français. Moi, j'hésite pas du tout à le dire. Et
Mais il est très bon.
le fameux
Ouais.
terme qui pose problème, voilà. Et en plus, c'est vraiment un garçon vraiment très très sympathique. Voilà, Tom, on l'adore. Gros big up, et de toute façon, on t'invite bientôt. Mais donc, du coup, il m'a transmis voilà son petit scouting report, on va dire, sur David Roddy. Donc, je vais vous le partager. Je vais juste le lire avec vous, et ça permettra de clore l'émission, et derrière on se dit au revoir. Donc je vous lis ce qu'il me dit sur David Roddy. Donc cette saison, Roddy a eu beaucoup d'opportunités de se montrer. C'est l'un des joueurs qui a joué le plus de minutes sous le maillot de Memphis depuis le début de la saison. Quelques hauts, mais surtout beaucoup de bas. Il a la faculté de ne pas refuser les tirs, mais est incapable de les mettre. Aïe. Là, c'est le cas, aïe. Là, bref. C'est l'un des joueurs les plus maladroits de la ligue cette saison, et il n'est pas défendu par les adversaires. Offensivement, c'est un talent dépendant qui est utilisé en joueur de fin de chaîne. Il a été testé un peu à l'initiation, mais fut très décevant, notamment à cause d'un premier pas lent, d'une mauvaise coordination avec le ballon et d'une incapacité à de créer la séparation en avançant sans provoquer de contact avec le défenseur. Donc effectivement, ça va souvent à la faute offensive, ce genre de choses,
Ouais.
avec ce gros physique. Il a été plus à l'aise sur les dernières semaines dans le rôle de driver en profitant des stunts défensifs sur Kennard et Jaren Jackson Jr. Défensivement, c'est un joueur de match-up. Il est plus à l'aise sur les ailiers que sur les extérieurs, malheureusement. Non, pardon, je vais reprendre la phrase. Il est plus à l'aise sur les ailiers que sur les extérieurs. Malheureusement pour lui, les ailiers peuvent lui tirer au-dessus de la tête. Il peut aider dans une défense en switch, mais n'est pas un stopper. Positif, c'est un joueur qui ne se cache pas et qui ne refuse pas les challenges. Pour gagner des minutes chez vous, sa défense sera sa première carte. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Donc c'est une sorte de conclusion. De la jeunesse, un esprit compétitif, de la puissance, et il permet de jouer plus grand que sa taille, de la polyvalence positionnelle, il peut jouer donc à plusieurs postes, hein, il est plutôt les dimensions d'un guard a priori, mais il peut jouer sur les postes 3 voire 4, et donc c'est un potentiel role-player à développer pour nous. Donc la prospective, on va dire, de Tom sur David Roddy au Suns, c'est au mieux il devient un bon joueur de rotation, et au pire il est hors de la Ligue 2 dans 2 ans, comme Ishwin Wright. Voilà. Et il conclut en disant que c'est quand même un joueur qui se blesse très peu, et ce qui peut être vraiment un atout pour nous. Et effectivement, moi j'ai tendance à penser, si tu peux me dire en deux mots très très vite, Hicham, ce que tu penses de cette take de ma part, mais que c'est un joueur qui va être pas mal utilisé là sur la fin de la saison régulière, et plus du tout après en playoff. C'est mon impression là sur David Roddy depuis son arrivée.
Moi, je pense qu'il sera pas du tout utilisé en playoff, oui, comme toi, et en saison régulière, je pense aussi qu'il sera pas beaucoup utilisé.
D'accord.
Donc, en fonction de ce qu'il va montrer lors des 5-6 prochains matchs, où à mon avis, Vogel va lui donner une petite chance de montrer quelque chose. S'il montre quelque chose, un peu de rebond, de la défense et une capacité à rentrer un petit shoot dans le corner quand il est libre ou de faire un drive. Alors, il aura peut-être des petites minutes, et puis petit à petit, il pourra peut-être se faire une place comme 9-10e homme. Ça
Voilà.
serait effectivement, je pense, le meilleur scénario pour lui. Et le pire scénario, c'est les 5-6 prochains matchs, il montre rien. Il a 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, par-ci, par-là. Il a une vraie chance de montrer quelque chose et il ne le fait pas. Et je pense qu'à ce moment-là, Vogel va éteindre le projet Roddy pour cette saison, va plus lui donner de minutes et qu'en playoff, on ne le verra pas. Sauf, comme disent les Américains, break glass in case of emergency. Donc, si vraiment il y a beaucoup de blessures et que c'est
Et encore
vraiment.
une fois, voilà, ce serait pas bon signe du tout. Ouais. Ce serait pas bon
Ouais.
signe du tout.
Mais c'est un projet, quoi. Il est jeune, donc
Oui, c'est ça,
on
on va voir,
estime
c'est
un projet, voilà.
ça, il est sophomore, effectivement, on le rappelle, donc oui, il y a encore tout à construire, on verra bien sur la durée. Très bien, eh ben, écoute, merci beaucoup Hicham, on va se quitter sur ces belles paroles et on va se retrouver très bientôt. On voulait aussi parler un peu du coaching staff, mais ça va te donner l'occasion d'une prochaine émission un peu sur le thème de la tactique, donc on vous tisse ça. On vous rappelle aussi que le dernier mémoire de Cactus est en ligne, si vous voulez jeter une petite oreille.
Et il est
Voilà,
magnifique.
merci beaucoup. Donc voilà, et bah merci beaucoup Hicham, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de
Merci à
Valeur.
toi. Merci aux auditeurs. On vous embrasse. Bye
Bye.
Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes boom.
That is just. Oh.
Sun came out. I went about to drop top.